Valérie Plaim. Le métier d'espion est par définition secret. Et si le secret est dévoilé, l'espion est grillé, pulvérisé en plein vol. L'histoire de Valérie Plaim en est la preuve éclatante. Cette Américaine était une agente de la CIA, une agente de l'ombre. Personne, en dehors d'un très petit cercle, ne savait où elle travaillait réellement.
My name is Valérie Plaim. You shouldn't know that.
Je m'appelle Valérie Plaim. Vous ne devriez pas le savoir, mais vous le savez.
I was truly honored to serve my country as a covert.
Cela a été un honneur pour moi de servir mon pays comme agent de la CIA.
It was a career I loved.
J'ai adoré mon métier, pour lequel j'ai reçu une formation de haut niveau.
And it all ended rather
abruptly. Et tout s'est arrêté d'un coup, un jour de juillet 2003.
Le 14 juillet 2003 exactement, son identité et son véritable métier ont été brutalement révélés dans la presse, ce qui a mis fin à sa carrière dans le renseignement et aussi a mis en danger son couple. Valérie Plaim a été malgré elle au centre d'un des plus gros scandales politiques aux États-Unis et d'une véritable tempête médiatique qui a duré plusieurs années. Le pire cauchemar pour un agent secret.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
L'affaire Valérie Plaim, surnommée le Plaim Gate, nous ramène au début des années 2000, lorsqu'après les attaques du 11 septembre, les États-Unis déclaraient la guerre au terrorisme. Après l'invasion de l'Afghanistan, 2 ans et demi plus tard, une armée coalisée sous commandement américain envahissait l'Irak.
Last night, a square mile in central Baghdad seemed like hell on earth. An inferno.
Une guerre menée contre l'avis de l'ONU, mais que George W. Bush, le président américain, justifiait par la certitude que l'Irak de Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Pourtant, plusieurs voix officielles émettaient de sérieux doutes sur cette thèse. Parmi elles, celle d'un diplomate, Joe Wilson, qui avait été missionné au Niger et en était revenu avec la certitude qu'aucune vente d'uranium n'avait été faite à l'Irak. Mais le gouvernement américain n'avait pas écouté ces voix discordantes. Et 6 mois après l'invasion de l'Irak, ce Joe Wilson allait accuser la Maison-Blanche d'avoir menti et d'être entré en guerre sous un faux prétexte. La riposte n'allait pas tarder, aux dépens de Joe Wilson, mais aussi de Valérie Plaim.
My story is a story of power.
Mon histoire est une histoire de pouvoir,
the abuse of power.
D'abus de pouvoir,
the price of speaking.
Du prix à payer pour avoir dit la vérité au pouvoir.
Car Valérie Plaim était l'épouse de ce Joe Wilson. En apparence, une mère de famille sans histoire. En guise de représailles, un journaliste, proche des Républicains, allait publier dans le Washington Post un article à charge contre Joe Wilson, qui au passage aussi révélait que son épouse était une espionne de la CIA. Au scandale du mensonge sur le nucléaire irakien se superposait un autre scandale. La fuite sur l'identité d'une agente du renseignement américain, ce qui, aux États-Unis, constitue un crime fédéral. Mais qui avait permis cette fuite ? Cette affaire, portée devant les tribunaux, très médiatique, allait pendant des années passionner les Américains. La Maison-Blanche avait-elle, par vengeance, balancé une agente de la CIA au détriment de la sécurité du renseignement ? Victime à ses yeux d'une trahison, Valérie Plaim, elle, a vécu ces années comme une mortifiante descente aux enfers. Mais contre toute attente, Valérie Plaim et son mari allaient se battre. Et ce combat très chevaleresque, un couple de bons Américains patriotes, seuls face à la machine de l'État, deviendra un livre, puis un film, Fair Game, avec les très sexy Naomi Watts et Sean Penn dans les rôles principaux. La plus américaine des récompenses. Jolie blonde, des yeux bleus, un sourire éclatant et le regard vif, Valérie Plaim incarne l'image parfaite de la middle class américaine. Elle est née en 1963 à Anchorage, en Alaska, le 49e État des États-Unis. Un État stratégique pendant la guerre froide, situé en face de l'Union soviétique, de la Chine et de la Corée du Nord.
Elmendorf Air Force Base, located just north of Anchorage, is the home to United States Air Force fighters and transport aircraft.
Son père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, est colonel à Elmendorf, base de l'US Air Force. Sa mère est enseignante dans le public, tandis que son grand frère a servi au Vietnam, dont il est revenu gravement blessé.
I come from a family of public service.
Je viens d'une famille engagée dans le service public.
Quietly, but it was always considered to be something worthwhile.
Sans ostentation, mais c'était quelque chose d'important.
Un héritage patriotique que la future espionne mettra en avant quand elle sera dans la tourmente, rappelant par exemple que ses parents, à chaque fête nationale, hissaient le drapeau étoilé dans le jardin et faisaient du bénévolat pour les plus démunis.
Food, fellowship, friendship.
Politiquement, ses parents ont toujours voté républicain, mais la guerre du Vietnam a créé chez eux de la désillusion. La famille déménage fréquemment au gré des affectations du père, jusqu'à s'installer un jour pour de bon dans la banlieue de Philadelphie. C'est là que Valérie grandit. Intelligente, sportive, élève brillante et bonne camarade, elle est douée aussi pour les langues. Un atout quand elle postulera à la CIA. Elle, qui adore voyager à l'étranger, parlera bientôt trois langues étrangères, le français, l'allemand et même le grec. En 1985, elle sort de l'université de Pennsylvanie avec un diplôme en communication et un boyfriend, Todd, qu'elle épouse à leur arrivée à Washington. Mais maintenant, que faire ? Contrairement à ses amis, la jeune femme de 22 ans peine à se décider. Un jour, sa mère, en lisant le journal, tombe sur un article qu'elle découpe pour sa fille. Tiens, ça peut l'intéresser. De quoi s'agit-il ? D'une annonce de la CIA qui recrute.
What about you? Consider a career with the Central Intelligence Agency. The CIA, the work of a nation, the center of intelligence.
Sans trop y croire, Valérie postule. Et son mari aussi d'ailleurs. Mais lui abandonnera vite et le couple ne tardera pas à divorcer. En attendant le résultat du recrutement, Valérie prend un job de vendeuse dans un magasin de vêtements. Il faut payer le loyer et les entretiens d'embauche à la CIA s'étalent sur des mois. Des questionnaires interminables, parfois surréalistes, des tests physiques et psychologiques, une séance de détecteurs de mensonges. Dans le même temps, Valérie l'apprendra plus tard, l'agence mène sur elle une enquête de sécurité. Des voisins de ses parents leur raconteront que quelqu'un était venu leur poser des questions sur leur fille. A-t-elle des problèmes ? Est-ce qu'elle boit ? Est-ce qu'elle se drogue ?
Welcome to the CIA.
Et puis, un jour enfin, Valérie apprend, non sans une certaine surprise, qu'elle a été sélectionnée pour la formation à la ferme, The Farm, le centre secret d'apprentissage de la CIA à Camp Peary, en Virginie.
His job was to recruit the best. And he will bring him into a secret world.
Ce que Valérie Plame ignore en 1985, c'est que la CIA est en pleine mutation. Ronald Reagan, au pouvoir depuis 4 ans, a placé un proche à la tête de l'agence, William Casey. Comme lui, un conservateur et un anticommuniste déterminé. Après les sales affaires des années 70, qui avaient terni gravement l'image de la CIA, William Casey, aidé par un budget en hausse, avait repris l'agence en main. Première urgence, recruter.
C'était les années Reagan. Ils faisaient tout pour nous. Ils nous disaient qu'ils investissaient un quart de million de dollars sur chacun d'entre nous, en plus de notre salaire.
La tradition à la CIA était d'engager de jeunes diplômés à la prestigieuse université Yale. Un proverbe disait « La CIA engage des anciens de Yale qui eux-mêmes sont les fils d'anciens de Yale, qui eux-mêmes sont les fils d'anciens de Yale. » William Casey a donc décidé de démocratiser le recrutement, notamment à des femmes. Et des femmes qui, en plus, ne seraient plus cantonnées à des emplois de bureau. Valérie Plame est arrivée au bon moment. Quand ses camarades de l'époque seront interviewés dans la presse au plus fort du scandale, tous se souviendront de Val P. Ils ne connaissaient que son nom de code. La meilleure de la promotion, sérieuse, concentrée et qui ne la ramenait pas, mais impressionnante, paraît-il, quand elle maniait une Kalachnikov. Automne 1989. Pour sa première mission à l'étranger, Valérie Plame, 26 ans, part à Athènes comme officier traitante avec une couverture officielle à l'ambassade.
Hello and greetings from the American Embassy in Athens.
Athènes, une destination en apparence synonyme de vacances. En réalité, la situation que Plame découvre en cette fin des années 80 est très tendue. En Grèce, la démocratie est revenue depuis plus de 10 ans après des années de dictature militaire, mais les étudiants continuent de manifester leur colère contre les États-Unis et l'OTAN. Et une organisation terroriste d'extrême gauche, appelée 17 novembre ou N17, multiplie les attentats contre la présence américaine en Grèce et contre la CIA, qui, de notoriété publique, a soutenu activement la dictature des colonels. Le premier et le plus célèbre des assassinats anti-américains en Grèce, un crime qui, curieusement, aura plus tard des conséquences sur l'affaire Plame, est perpétré le 23 décembre 1975 contre le chef de la station de la CIA à Athènes.
Le métier de diplomate est toujours aussi dangereux. À Athènes, hier, c'est le conseiller spécial de l'ambassadeur américain, M. Richard Welch, qui a été assassiné à coups de revolver devant son domicile alors qu'il revenait d'une réception avec sa femme et son fils. Récemment, certains journaux grecs avaient cité M. Welch comme étant un agent de la CIA.
Richard Welch devenait ainsi l'espion américain le plus haut gradé tué dans l'exercice de ses fonctions. La CIA était immédiatement en alerte. Comment les tueurs de N17 avaient-ils su que cet employé de l'ambassade était en réalité le chef de la CIA en Grèce? Une information secrète. De même, comment s'était-il procuré son adresse? La mort de Welch va traumatiser pour longtemps la CIA. Elle conduira en 1982 à l'adoption d'une loi spéciale, l'Intelligence Identities Protection Act. Cette loi rendait illégale la révélation du nom d'un agent du renseignement américain. Une loi défendue alors avec force par Ronald Reagan quand il vient à Langley et rend hommage aux agents de la CIA.
You, the men and women of the CIA, are the eyes and ears of the free world.
Vous, hommes et femmes de la CIA, vous êtes les yeux et les oreilles du monde libre.
C'est cette loi que Valérie Plame invoquera en 2003 pour sa défense. Mais revenons à 1989 quand elle arrive à Athènes. L'atmosphère y est très tendue car les attaques de N17 ne cessent pas. On peut imaginer la nervosité des Américains en poste alors à Athènes.
Quand nous étions en voiture, nous regardions tout le temps dans le rétroviseur. Nous avions reçu l'ordre de ne jamais quitter notre domicile à la même heure.
Valérie Plame elle-même n'emmène pas large. Habitant en banlieue, elle emprunte chaque jour l'unique chemin qui mène au centre-ville d'Athènes, une route étroite, idéale pour une attaque à moto. À l'ambassade, Plame exerce au grand jour une fonction diplomatique. En réalité, elle est officier traitante de la CIA. Immergée dans la vie athénienne, elle prend le maximum de contacts, recueille des renseignements politiques et recrute des agents. Mais si elle venait à être arrêtée par la police grecque et soupçonnée d'espionnage, Plame serait protégée par sa couverture diplomatique et simplement renvoyée dans son pays. Après 3 ans passés à Athènes, notre jeune espionne rentre à Washington en 1992. Cette fois, la CIA lui propose de devenir NOC, N-O-C, Non-Official Cover, la plus secrète, la plus prestigieuse et aussi la plus dangereuse des accréditations. Celle des agents qui ne bénéficient d'aucun lien officiel avec le gouvernement et qui espionnent à l'étranger sans protection diplomatique, donc sans filet en cas de pépin. Plame accepte. Elle le sait, si elle est arrêtée à l'étranger, son pays nierait tout lien avec elle. Mais la mission est excitante et bien payée. Car les NOC, qui s'inventent une carrière dans le secteur privé, sont extrêmement précieux pour obtenir du renseignement. Mais devenir NOC prend du temps. Première chose, Pour rendre crédible son virage vers le privé, Valérie Plame est envoyée faire des études. D'abord 2 ans à Londres, à la prestigieuse London School of Economics, puis 2 ans encore au Collège de l'Europe en Belgique. En tout, 4 ans d'études.
Hello friends, welcome to Brussels. Grey and rainy Brussels.
En 1996, Valérie Plame, âgée maintenant de 33 ans, s'installe dans une nouvelle vie. Un joli appartement dans un joli quartier de Bruxelles et un boulot de consultante.
Dis-moi Valérie, tu bosses dans quoi ?
Je suis dans le capital risque chez Brewster Jennings à Georgetown.
Ah ouais, les startups, c'est ça ?
Voilà. Je fais des investissements pour les particuliers dans des fonds de placement. C'est assez barbant.
Brewster & Jennings, une société bien sûr totalement fictive. Valérie a un bureau, une ligne de téléphone, des cartes de visite, une secrétaire. Il lui arrive même de conclure des contrats. Une couverture parfaite qui permet à l'espionne de voyager et de rencontrer des personnes qu'elle ne rencontrerait pas si elle représentait le gouvernement américain. Dans les années 90, la CIA, qui cherche à multiplier les sources de renseignements, en particulier dans le monde de l'entreprise, pousse ses agents NOC vers des postes à responsabilité dans des compagnies internationales et inversement, cherche à recruter des chefs d'entreprise dans les domaines de pointe, informatique, électronique et aérospatiale. Quand les parents de Valérie lui rendent visite à Bruxelles, ils remarquent bien qu'elle n'est pas bavarde sur son travail. Mais évidemment, ils n'ont aucune idée de son activité souterraine. Mais au bout 1 an seulement à Bruxelles, Valérie Plame est soudainement rappelée à Washington. Que se passe-t-il ? À son arrivée à Langley, on l'informe qu'un des plus importants espions de la CIA a été pendant 10 ans une taupe pour les Russes. Aldrich Ames. Il a été arrêté en 1994, mais la CIA depuis a découvert que le traître a livré aux Russes les noms de dizaines d'agents américains. Peut-être Valérie Plame, un de ses collègues se souvient.
Il craignait que son nom soit sur la liste. Valérie était effondrée. Tout ce pour quoi elle avait été formée, tout ce qu'elle aimait s'écroulait.
Un avant-goût de ce qu'elle va vivre pour de vrai 6 ans plus tard. Mais par chance, en 1997, le risque pour elle d'une divulgation s'éloigne. Et un événement inattendu va finir de remonter le moral de l'espionne. Un soir qu'elle assiste à un cocktail à l'ambassade de Turquie, un inconnu se dirige droit vers elle au milieu de la foule.
Les autres gens avaient disparu. Je ne voyais qu'elle et son large sourire. J'ai déjà dû la rencontrer. Mais où ? Strangers in the
night. Un coup de foudre partagé par la dame. C'est du moins le récit très shabadabada que le futur mari de Plame fera à la presse People quelques années plus tard. Lui s'appelle Joe Wilson. Il a 47 ans, il est diplomate, ex-ambassadeur au Gabon et actuel conseiller du président Clinton pour l'Afrique, un continent qu'il connaît bien. Cet ex-hippie californien à la mèche rebelle qui a vécu une partie de sa jeunesse en France, a le charme des Américains qui ont bourlingué. Mais il n'est pas que cela. Joe Wilson a été un véritable héros pendant l'invasion irakienne du Koweït en 1990. Alors que Saddam Hussein menaçait d'exécuter toute personne abritant des étrangers, Joe Wilson a sauvé 150 GI en les cachant dans l'ambassade américaine. Valérie est séduite, comment ne pas l'être ? Mais elle, pour l'instant, s'en tient à sa couverture.
En fait, je bosse à Georgetown chez Brewster Jennings, une petite structure qui fait du capital risque.
Mais le soir même, Valérie, en vraie espionne, vérifie le CV du beau dragueur. Tout est vrai. Et au bout de quelques semaines, comme leur relation devient sérieuse, elle lui révèle tout.
Quand elle m'a dit qu'elle était un agent NOC à la CIA, je n'ai pas été surpris. Je dois dire, j'ai même trouvé ça très sexy. Je lui ai juste demandé si Valérie était son vrai prénom.
L'année suivante, il se marie. En 2000, Valérie Plame prend un congé maternité d'un an, le minimum pour des jumeaux. Entre-temps, en janvier 2001, un nouveau président des États-Unis a été élu.
France Inter.
The winner is George W. Bush.
Au printemps 2001, Valérie Plame reprend son travail. Désormais, à la division chargée de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, qu'elles soient nucléaires, chimiques ou biologiques. Son champ d'investigation sera l'Irak. À cette époque, l'équipe de la CIA en charge du pays de Saddam Hussein est encore modeste. Mais à partir de l'été, curieusement avant même les attaques du 11 septembre, l'équipe s'agrandit et prend un nouveau nom, la Joint Task Force en Irak.
Au sein de la CIA, notre division est en pleine croissance, ce qui peut sembler sympa quand on aime être à plusieurs dans un bureau.
Oh my god, so both towers are now.
Okay, now I got an aircraft 6 miles east of the White House.
Arrive le 11 septembre 2001. Dans les semaines qui suivent, tout s'accélère. En octobre, commence l'invasion de l'Afghanistan dans le but de détruire Al-Qaïda. Très vite aussi, le gouvernement américain cherche à établir l'implication irakienne dans les attentats. Pour George W. Bush, l'Irak, au même titre que la Corée du Nord et l'Iran, fait partie d'un axe du mal. Tandis que le vice-président, le très puissant Dick Cheney, n'a aucun doute que Saddam Hussein possède l'arme nucléaire.
There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction.
Dick Cheney, qui met la pression sur la CIA au point de venir en personne à Langley pour exiger des renseignements sur l'armement irakien.
Le 7e étage vient d'ordonner une mission conjointe en Irak. Vous allez diriger l'opération.
Je te félicite, bravo.
Merci.
Je vous laisse carte blanche pour former une équipe, priorité absolue. À partir de lundi, vous êtes sur l'Irak.
À vos ordres.
C'est la Maison Blanche qui a donné l'ordre.
Désormais, la Task Force compte 50 personnes. Et c'est Valérie Plame qui la commande. Cet élément, resté longtemps secret, est très important pour comprendre la future affaire Plame. Quand en 2003, des journalistes révéleront le nom de l'agente de la CIA, certains affirmeront avec dédain que Plame n'était qu'une petite employée de bureau de la CIA et que donc cette révélation était sans gravité. On voit qu'ils étaient mal informés ou bien qu'ils mentaient. Mais revenons début 2002. Alors que le gouvernement se prépare déjà à la guerre, la Joint Task Force s'active frénétiquement dans les sous-sols de Langley pour trouver des renseignements confirmant la thèse du gouvernement. Mais elle a beau chercher, la Task Force ne trouve absolument rien.
Depuis des semaines, l'équipe passe plus de 15 heures par jour sur ce dossier. On en a marre.
S'ils ne trouvent rien, c'est peut-être simplement qu'il n'y a rien à trouver. En février 2002, survient un événement qui sera lourd de conséquences. La CIA informe Valérie Plame qu'elle cherche à rencontrer son mari, Joe Wilson, au sujet du Niger, ce pays africain exportateur d'uranium que Joe connaît bien. Il accepte.
Que savez-vous sur le Niger ?
J'y suis retourné à maintes reprises, je connais très bien le pays.
Il se trouve que le vice-président a reçu un rapport contenant le procès-verbal d'un accord entre les gouvernements du Niger et de l'Irak pour la vente de 500 tonnes de concentré d'uranium enrichi. Je n'ai pas besoin de vous dire que cette allégation est grave.
Non, c'est inutile.
Je vous parle au nom du vice-président. On a besoin de vous.
Joe Wilson accepte de partir au Niger à titre gracieux. Mais sur place, lui non plus ne trouve rien sur une éventuelle vente d'uranium à l'Irak. À son retour, il rend son rapport à la CIA.
Je pense que cette transaction n'a pas pu avoir lieu.
Mais tout cela ne change rien. Moins d'un an plus tard, le 28 janvier 2003, le président Bush prononce son discours sur l'état de l'Union.
The President of the United States.
L'agence internationale pour l'énergie atomique a confirmé dans les années 90 que Saddam Hussein avait un programme d'armes nucléaires. Le gouvernement britannique a appris que Saddam Hussein est allé chercher récemment des quantités significatives d'uranium en Afrique.
Cette petite phrase, le gouvernement britannique a appris que Saddam Hussein a récemment été chercher des quantités significatives d'uranium en Afrique. Cette petite phrase va longtemps résonner dans les têtes de Valerie Plame et de son mari. Est-ce possible que le gouvernement ait obtenu des preuves qu'eux-mêmes, lui au Niger, elle à la CIA, ont été incapables de trouver ? Il n'empêche, cette petite phrase donne le feu vert à la guerre 2 mois plus tard. Le 19 mars 2003, débute l'invasion de l'Irak.
CBS News headquarters in New York. It was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq.
Une guerre éclair de 26 jours qui va conduire à la chute de Saddam Hussein, mais aussi plonger l'Irak dans le chaos. Quant aux armes de destruction massive, les inspecteurs américains envoyés en Irak n'en trouvent aucune trace. Aux États-Unis, de plus en plus de voix s'élèvent pour contester le bien fondé de cette guerre. Parmi elles, celle de Joe Wilson, qui le 6 juillet 2003 signe dans le New York Times une tribune au vitriol intitulée « What I didn't find in Africa », « Ce que je n'ai pas trouvé en Afrique », où il raconte sa mission au Niger. Un témoignage accablant pour la Maison-Blanche, accusé ni plus ni moins d'avoir manipulé les services de renseignement et d'avoir menti pour justifier l'invasion de l'Irak. Wilson termine sa tribune par ces mots.
Plus de 200 soldats américains ont déjà perdu la vie en Irak. Nous avons le devoir de nous assurer que leur sacrifice est advenu pour de bonnes raisons.
L'administration Bush sera contrainte de reconnaître son erreur, l'attribuant à une faiblesse dans la communication avec la CIA. Mais alors que la popularité de Bush dégringole dans les sondages, la vengeance de la Maison-Blanche sur Wilson ne tarde pas. Seulement une semaine plus tard, le 14 juillet 2003 au matin, Wilson et Plame sont chez eux quand ils ouvrent le Washington Post.
Valérie ?
Oui ? Wilson n'est pas un employé de la CIA, mais sa femme...
est un agent de la division des armes de destruction massive. Comme ça, il a lâché ton identité.
Mais ça va paraître à l'étranger.
C'est dans le journal, Valérie, ce sera aux infos partout.
Non,
dans le monde entier.
La révélation que l'épouse de Wilson travaille à la CIA et qu'elle s'appelle Valérie Plame est une catastrophe.
I will never forget what that day was like because my entire
je n'oublierai jamais ce jour où ma vie a basculé.
And it just felt like a punch in the gut.
C'était comme un coup de poing dans le ventre.
Valérie Plame voit sa carrière d'espionne commencer en 1985 brutalement pulvérisée. Elle n'a plus sa place à la CIA.
Je suis désolé. Vous étiez un bon agent. Mais c'est terminé.
Victime d'une intense campagne de calomnie, le couple en prend un sérieux coup. Pourtant, il ne tarde pas à se ressaisir et à contre-attaquer. En septembre 2003, la CIA, furieuse de voir le gouvernement lui faire porter le chapeau sur les armes de destruction massive et qui soupçonne l'administration Bush d'avoir grillé un de ses agents, demande au département de justice d'ouvrir une enquête sur la fuite. Car vous vous souvenez, depuis l'assassinat de Richard Welch à Athènes et depuis la loi de Reagan en 1982, le fait de révéler l'identité d'un agent de la CIA est un crime fédéral passible de 10 ans de prison. Cette révélation est grave aussi car elle met en danger du même coup tous les contacts de Valérie Plame à l'étranger.
Alors que la politique irakienne des Américains est de plus en plus contestée, une affaire provoque des remous au sein même de la Maison-Blanche. L'administration Bush aurait révélé l'identité d'un agent de la CIA pour décrédibiliser un diplomate critique vis-à-vis du réquisitoire de Washington contre l'Irak.
En quelques semaines, l'affaire se transforme en scandale politique, d'autant qu'on est à un an seulement de la prochaine élection présidentielle. Les soupçons se portent vite sur un certain Karl Rove.
Le principal conseiller politique de George Bush, Karl Rove, serait-il l'auteur d'une fuite mettant en cause la sécurité de l'État? C'est la question qui, ces jours-ci, fait trembler tout Washington.
Joe Wilson n'a pas de doute sur l'origine de la fuite.
Une source tout à fait fiable m'indique que la Maison-Blanche a approuvé cette fuite par la voix de Karl Rove.
Karl Rove ne sera pas le seul inquiété. Le juge, en charge de l'affaire, exige des journalistes qui ont accepté de publier des informations sur Valerie Plame qu'ils révèlent leurs sources. Ils refusent, invoquant le premier amendement de la Constitution des États-Unis qui assure la liberté de la presse et le secret professionnel. Mais leur requête est rejetée. La journaliste Judith Miller, qui persiste à ne rien révéler, est emprisonnée. Elle est libérée quand sa source l'autorise à divulguer son identité. Il s'agit de Louis Libby, qui n'est autre que le secrétaire général du vice-président des États-Unis, Dick Cheney. Alors que l'enquête avance et que le scandale politique se rapproche dangereusement du président Bush, Valerie Plame s'enferme chez elle, effondrée de voir son nom étalé dans les médias.
C'est lui! Monsieur Wilson,
vous êtes sur une propriété privée, allez-vous en.
Vous faites l'objet. Monsieur Wilson, allez. Est-ce que le vice-président...
Veuillez sortir de chez moi immédiatement.
C'est le vice-président et pas votre femme qui vous a envoyé Niger. Vous
Monsieur voulez revoir votre déclaration. Vous voulez un voyage au soleil aux frais de la princesse. Vous avez inventé cette histoire de...
Mais en octobre 2004, soit un an après le début de l'affaire, Valerie Plame et Joe Wilson, toujours très en colère, décident de changer de stratégie. Avec la complicité du magazine People Vanity Fair, ils se rendent à une réception à Washington qui, ce jour-là, réunit tout le gratin de la politique et de la presse. Sous le regard médusé des convives, une jolie femme, blonde et élégante, traverse la salle pour rejoindre Joe Wilson, qu'elle embrasse tendrement. Mais ça ne peut être qu'elle, Valerie Plame, la Jane Bond, comme son mari l'appelle. Le récit de cette arrivée très cinéma sera un scoop quelques semaines plus tard dans Vanity Fair, avec en une photo très glamour du couple assis dans une décapotable, elle avec des lunettes noires et un foulard à la Grace Kelly. Quitte à être sacrifiée par son pays, autant y gagner un peu de notoriété. En 2005, la justice inculpe Louis Libby.
C'est une bombe politique que le procureur spécial Patrick Fitzgerald a lâchée devant la presse médusée hier. Il accuse le chef de cabinet de Dick Cheney d'avoir volontairement divulgué le nom d'un agent de la CIA.
Finalement, il s'est avéré que le récit de M. Libby, où il affirme être le dernier maillon dans une chaîne de conversations téléphoniques, ce récit est faux. Au contraire, il est au début de cette chaîne. Il est le premier à révéler cette information confidentielle à la presse. Et il a menti ensuite.
Louis Scooter Libby est plus qu'un chef de cabinet. C'était l'éminence grise de Dick Cheney, l'homme de l'ombre au centre de toutes les décisions, notamment au moment de la guerre en Irak. Et l'agent secret dont il a révélé l'identité, c'est Valerie Plame, l'épouse de l'ancien ambassadeur Joe Wilson.
Louis Libby sera condamné en 2007 à 2 ans et demi de prison et 250 000 dollars d'amende. Mais quelques mois plus tard, le président Bush le fait libérer. Il sera totalement gracié en 2018 par Donald Trump. Karl Rove, lui, échappera totalement aux poursuites. Et Valerie Plame ? En 2006, elle signe avec un éditeur un contrat de 2,5 millions de dollars pour raconter son histoire. Le livre, Fair Game, sera largement caviardé par la CIA.
J'ai démissionné de la CIA en 2007. J'ai compris que cet emploi, le meilleur que j'ai jamais eu, était terminé pour moi.
Je n'avais pas le désir de rester. Mais trop d'eau avait coulé sous les ponts. J'ai pensé que mes chances de promotion avaient chuté considérablement. Donc j'ai démissionné. Et avec ma famille, nous avons déménagé de Washington à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Et nous avons reconstruit notre vie, professionnelle et personnelle.
En 2007 aussi, le couple Plame-Wilson signe un contrat avec Warner pour un film, Fair Game, qui sortira en 2010 avec Naomi Watts et Sean Penn dans les rôles principaux. Lors de la campagne présidentielle de 2016, Valérie Plame soutient Hillary Clinton. Elle-même tentera sa chance à la Chambre des représentants en 2020, mais sans succès. Entre-temps, en 2017, Valérie Plame et Joe Wilson ont divorcé. La pression, sans doute, a été trop forte. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter. Avec les comédiens Lise Combe et François Hatt. Documentation Frédéric Martin. Mixage Basile Bocquer et Baptiste Collion. Réalisation Séverine Cassard.